Parlons France.
Parlons France.
Parlons
France.
Parlons France.
Des sujets régionaux.
Un ton libre.
Des reportages de terrain.
Du débat contradictoire mais constructif.
Une parole franche.
C'est Parlons France.
Le magazine mensuel de la France.
La fédération des radios associatives du nord de la France.
Parlons France.
Vous écoutez Parlons France, une émission de la Fédération des radios associatives du nord de la France. Aujourd'hui, sur le thème l'environnement, une chance pour le développement régional, avec nos invités, M. Yann Gouriot, directeur adjoint de la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, DREAL. Bonjour.
Bonjour.
Madame Pascale Desgroux, directrice de recherche au CNRS. Madame Nina Hauteket, maître de conférence spécialiste évolution et écologie. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Notre équipe, René Laverne de Radio Campus à la coordination et à la technique, Inès Snow de Radio RPL 99 FM à Lambersart et Joris Nessens de Radio Club à Wallers à Ramberg. Bonjour à tous les trois.
Bonjour. Bonjour.
Et moi-même, Juliette Vincent de Radio Campus. Pour traiter ce thème, l'environnement, une chance pour le développement régional, nous avons choisi de vous faire écouter deux interviews et un micro-trottoir et de faire réagir nos invités que nous questionnerons également sur leur vision de notre sujet. Mais pour démarrer, voici un sujet de Joris Nessens qui s'est intéressé de près au parc régional Scarpe-Esco et à ses ressources.
Le parc régional Scarpe-Esco est le plus vieux parc naturel de France. Grâce à un projet commun élaboré par les acteurs du territoire, l'équipe du PNR accompagne et fédère des actions sur la transition énergétique concernant la consommation, l'habitat et les déplacements. Rencontre avec Émeric Dumonté, chargé de mission transition énergétique à la Maison du Parc à Saint-Amand-les-Eaux. Il présente la filière bois et les initiatives locales.
Alors schématiquement, c'est 25% de boisement, 25% de zone humide, qui est très donc un élément très prégnant du territoire. On va dire 25% d'urbanisation et 25% d'agricole. Donc on a une grosse proportion quand même de domaines forestiers sur le territoire, que ce soit des boisements privés, mais aussi des boisements publics, notamment dans le cadre des domaniales. Il y a quatre domaniales, Rheims-Saint-Amand, Bon Secours, Flins-les-Mortagnes et Marchiennes. Voilà. Donc on a volonté maintenant de pouvoir développer cette filière bois sur ce volet forestier et non plus forcément sur le volet, on va dire, agricole et bocager qui pose certaines contraintes à la fois techniques et économiques. On n'a pas vocation à couvrir tous les habitants ou tous les consommateurs du territoire en plaquettes forestières. Par contre, le bois énergie peut être une solution pour certaines communes ou pour certaines entreprises d'essayer de s'engager dans la transition énergétique. Sur notre territoire, potentiellement, il y a d'autres énergies renouvelables qui peuvent être valorisées. Il peut y avoir la géothermie, il peut y avoir le solaire photovoltaïque ou thermique, et éventuellement aussi la méthanisation, parce que voilà, on a encore un territoire marqué aussi par l'élevage, donc qui dit élevage dit effluent d'élevage, donc possibilité de travailler sur la méthanisation. Sur le territoire ou à proximité du territoire, il y a plusieurs unités de méthanisation qui donc valorisent à la fois des effluents d'élevage de l'exploitation agricole, mais c'est aussi des agriculteurs qui se sont mis en relation avec d'autres producteurs de déchets fermentissibles, donc déchets fermentissibles, des déchets qui par dégradation vont produire du méthane, qui lui-même pourra produire du biogaz. Voilà, donc il y a déjà des initiatives locales à la fois sur le bois énergie, mais également sur la question de production de méthane. Alors, lors de nos travaux sur la valorisation des éléments bocagers du parc, il y a des acteurs du territoire qui sont montés en compétences et qui notamment se sont équipés d'outils logistiques permettant la création de plaquettes forestières. Donc on a un agriculteur qui s'est équipé d'un grappin coupeur et on a un autre agriculteur qui s'est par exemple équipé d'un broyeur à plaquettes. Voilà. Et qui est en train également de réfléchir à l'installation d'une plateforme pour pouvoir sécher ces plaquettes. Il faut savoir aussi que notre parc naturel régional est un parc, et c'est le seul de France, transfrontalier, avec le parc côté belge des plaines de l'Escaut. À la maison du parc des Plaines de Lescot, ils ont mis en place une chaudière bois à plaquettes qui alimente donc leur bureau. Et c'est un agriculteur du territoire qui est situé à Molde qui les approvisionne depuis 2 ans en plaquettes forestières. Voilà, une plaquette qui vient du territoire et qui est consommée sur le territoire. On essaye d'être dans une logique voilà, de circuit court et de valorisation des ressources locales.
Donc le parc régional Scarpesco accompagne donc ces acteurs, on va dire ces agriculteurs.
Oui, alors ça peut être des agriculteurs comme ça peut être d'autres personnes. Nous, on les accompagne techniquement. Après, le conseil régional, initialement Nord-Pas-de-Calais, mais maintenant Hauts-de-France, accompagne aussi financièrement des installations de chaudières ou éventuellement de l'outillage si c'est ancré dans une filière locale. Donc le conseil régional a encore des moyens financiers pour accompagner l'investissement, notamment sur des chaudières bois qui sont, il faut le dire, plus cher. Donc le conseil régional arrive à abonder financièrement pour faire émerger des projets. Et nous, et moi, techniquement, je peux accompagner les communes, des particuliers, des collectivités, oui, des agriculteurs sur du moins la réflexion sur le bois énergie et de travailler un peu plus en amont sur des études un peu plus précises en termes de consommation, de bilan énergétique et de bilan économique. Alors le parc gère aussi le site d'Amaury, mais aussi on a le pôle Cheval Trait du Nord, donc qui est situé à quelques kilomètres d'ici, qui est un pôle qui a vocation à sauvegarder le Cheval Trait du Nord, qui est donc originaire du coin, essayer de sauvegarder la race. Alors l'objectif c'est de sauvegarder la race, certes par la reproduction, mais aussi par l'utilité sociale. C'est d'essayer de considérer que ces animaux-là, qui dans le temps étaient utilisés pour les travaux, c'est des chevaux de trait, peuvent encore avoir une utilité sociale. Donc on expérimente des choses sur le territoire, et notamment la collecte des déchets verts, des branchages, de manière donc hippomobile. Donc concrètement, c'est les chevaux qui tirent une benne de déchets. Voilà. Donc il y a eu des expérimentations dernièrement à Milonfosse, à Aspre. Bon, Aspre, c'est en dehors du territoire. Il y a eu Milonfosse, il y a eu Bélin, voilà, il y a plusieurs communes, aussi dans le Pével-Carambeau, qui se sont eux-mêmes équipés d'une benne. Voilà, ça commence à essaimer, et il y a de plus en plus de communes qui s'intéressent à cette idée de se dire qu'un cheval, en réalité, est tout aussi performant, moins bruyant, moins polluant, moins consommateur d'énergie, et qui peut remplir cette tâche à la fois économique, mais aussi une vocation sociale, parce que c'est des animaux qui sont dans la rue, donc il y a toujours un certain attrait, et il y a aussi une politique de sauvegarde de la race.
Parlons France.
Parlons France.
Parlons
France.
Parlons France.
Des sujets régionaux.
Un ton libre.
Des reportages de terrain.
Du débat contradictoire, mais constructif.
Une parole franche.
C'est Parlons France.
Le magazine mensuel de la France.
La fédération des radios associatives du nord de la France.
Parlons France.
Le magazine Made in France.
Vous écoutez Parlons France, toujours sur le thème l'environnement, une chance pour le développement régional, avec maintenant un sujet d'Inès Snow de Radio RPL qui s'est intéressé à la filière bois comme matériau de construction en région Hauts-de-France.
Oui, et dans un contexte économique difficile donc pour la filière bois, le Conseil régional Nord-Pas-de-Calais ainsi que les professionnels de la filière bois du territoire, qui sont représentés par Nord-Picardie Bois et le Comité national pour le développement du bois, se mobilisent pour redynamiser la filière en voulant notamment massifier l'utilisation du bois dans les constructions. Écoutez donc la rencontre avec Jean-Patrick Delaplace, en charge du volet bois transformation à la Maison du Bois à Auchy dans le Pas-de-Calais.
Alors, la filière bois-construction, c'est une filière qui a été absorbée fortement par les résineux, puisque plus facilement standardisable que le feuillu. Et donc du coup, on essaye de réintégrer le feuillu, puisque les constructions avant se faisaient principalement en feuillu. Hein, que ce soit du torchis ou autre, le bois qui était utilisé, c'était du feuillu. Sauf qu'on a perdu les savoirs. Et donc du coup, à l'heure actuelle, sur l'ensemble des scieurs des Hauts-de-France, on a 3-4 qui maîtrisent seulement la coupe du peuplier pour pouvoir en faire un bois de construction. Après, il a ses défauts. Et donc du coup, pour l'appel à candidature, permet de mettre en avant des constructions à partir de bois locaux, peupliers, hêtres, avec bien sûr une étude de structure qui est obligatoire puisque non standardisée.
Alors ça concernait qui, cet appel à candidature ?
Alors toutes les collectivités ou privées qui souhaitaient construire en bois local. Cet appel à candidature prenait l'étude technique en charge puisque de toute façon on est obligé de faire une étude de structure sur les bois locaux puisqu'on n'a pas de standard. Et en plus prenait le surcoût de l'utilisation du bois local. En aucun cas ça subventionnait le bâtiment.
J'ai lu qu'on était dans un contexte économique difficile concernant cette filière. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ?
On est dans un contexte économique très difficile puisque, si on prend un exemple, un bois qui va partir à l'export va revenir transformé moins cher que s'il avait été transformé en France. Là, pourquoi la grande difficulté, c'est le coût, parce que c'est une filière qui a énormément besoin de manutention, malgré les outils, malgré la modernisation, enfin... Il reste encore à moderniser, mais malgré ça, c'est une filière qui a beaucoup de manutention.
Est-ce que la région des Hauts-de-France est plus concernée que les autres régions ?
En Hauts-de-France, on a principalement du feuillu. D'autres régions vont alterner entre du résineux et du feuillu, donc du coup, ils vont plus facilement en tirer leur épingle du jeu par rapport à nous.
Quelles sont les problématiques en fait, du bois de construction aujourd'hui du coup, dans la région ?
La problématique, c'est d'avoir une standardisation et d'avoir une classification pour les normes. Alors, on va parler de le résineux, il y a une classification visuelle. Le peuplier ou autre, hein, étant un bois qui travaille beaucoup plus, on est obligé de tester chaque morceau de bois, ce qui amène une opération supplémentaire et qui entraîne énormément de manutention. Voilà. Mais on est obligé de classifier chaque morceau de bois pour vérifier sa résistance.
Quelles sont les prochaines étapes ?
Alors, principalement l'appel d'offres, même s'il était tout public, que ce soit public ou privé, était quand même axé bâtiment tertiaire ou salle des fêtes, enfin voilà, tout ce type de bâtiment. Le master plan, on va tenter d'orienter ça vers du logement social. Donc, recoller plus à ce qu'on va attendre du bois construction, c'est-à-dire faire de la maison. Et en même temps, on va développer tout ce qui est réhabilitation énergétique en essayant de mettre au point une méthode d'isolation par l'extérieur avec du bois local, que ce soit en ossature ou en bardage.
Quel est l'intérêt d'utiliser du bois de construction pour la planète ?
C'est une matière qui est renouvelable. Tout simplement, après il y a un cycle, hein, comme toutes les matières, mais à la fois, si on prend le bilan carbone de A à Z, entre la fabrication du bois et puis sa fin de vie, dans tous les cas, on a une chaîne carbonée, on stocke du carbone, même si elle est en fin de vie, on le consomme, on le brûle, ou on le retraite, la chaîne carbonée est toujours respectée, quoi. On libère pas un carbone fossile qui a été stocké par la planète.
Vous avez bon espoir du coup pour l'avenir, pour la région, pour le bois de construction ?
Oui, on ne peut pas travailler sans l'espoir de faire avancer cette cause. Après, diverses méthodes vont se mettre au point. Pour l'instant, on reste sur du standard identique au résineux. Il y a sûrement, comme l'ont exploré d'autres, comme le Canada ou les États-Unis ont exploré d'autres voies, il y aura peut-être à faire un bois composite peut-être, beaucoup plus standardisé et qui sera peut-être à l'avenir le bois de construction à partir de feuillus.
Salut, je m'appelle Charlie, je suis paysan dans le Missouri. Salut, je m'appelle Charlie, j'aime la terre, les légumes et
Des sujets régionaux,
un ton libre,
des reportages de terrain,
du débat contradictoire mais constructif,
une parole franche,
c'est Parlons France,
le magazine mensuel de la France,
la fédération des radios associatives du nord de la France.
Parlons France, le magazine Made in France.
Voilà, après ces deux sujets réalisés par Joris Nessens et Inès Snow, la parole est à nos invités. Avant de réagir, quelques mots sur la DREAL dans la région, monsieur Gouriot.
Merci. La DREAL, c'est la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, c'est-à-dire tout simplement le service en région du ministère de l'écologie et du ministère du logement. Et donc nous avons à relever les enjeux de la région sur les politiques de ces deux ministères. Qui sont très nombreuses, biodiversité, qualité de l'eau, de l'air, des sols, les risques, la consommation d'espace, le logement, les infrastructures de transport, et j'en ai bien sûr oublié.
Et vous, mesdames, pouvez-vous me préciser la fonction universitaire que vous représentez ?
Oui, bonjour. Donc, moi, je suis Pascale Desgroux et je suis chercheure du CNRS, le Centre National pour la Recherche Scientifique. Et donc, j'interviens dans un laboratoire universitaire qui s'appelle Physico-chimie des processus de combustion et de l'atmosphère. Et en tant que chercheure, eh bien, je suis impliquée dans des projets de recherche en lien avec l'environnement en région.
Nina Autocat, maître de conférence à l'Université Lille 1. Donc, moi, je suis dans un laboratoire, évolution, écologie et paléontologie, où nous travaillons sur les changements de biodiversité avec les changements actuels. Voilà, donc c'est un laboratoire qui est également avec le CNRS.
Très bien. Place aux questions ?
Oui, alors moi j'ai d'abord une première question pour monsieur Gouriot, donc de la DREAL. Est-ce que vous pouvez d'abord nous expliquer le rapport entre logement et écologie ? Parce que c'est pas forcément clair, enfin on s'imagine pas forcément comment vous travaillez sur les deux à la fois.
Vous savez, l'architecture des services en région, c'est pas moi qui l'ai faite, c'est le gouvernement. Donc on est un service régional du ministère du logement et un service régional du ministère de l'écologie. Pour autant, ça a une cohérence, bien sûr, puisque le logement, c'est quand même le cadre de vie de chacun. C'est très important de pouvoir, bien sûr, produire des logements avec les bailleurs sociaux, mais également s'intéresser à tous les sujets de qualité de la construction, de qualité de l'air intérieur, de rénovation énergétique des bâtiments, qui sont d'ailleurs un des enjeux forts de la région.
Alors, dans les deux sujets qu'on vient d'entendre, que vous venez d'entendre, on parlait du bois. Est-ce que, Nina Outquet, par exemple, en quoi le bois est une filière d'avenir pour la région, pour vous ?
Bon, après, il y a tous les enjeux qui sont liés effectivement au stockage du carbone, à l'utilisation de matières renouvelables. Ce qui est aussi intéressant, c'est de savoir que la région a à peu près 9% de son territoire qui est recouvert de forêts, ce qui est très peu. Et c'est à peu près l'équivalent des surfaces imperméabilisées par les routes en région. Donc il y a un enjeu qui est très fort, parce que c'est normalement la végétation qu'on devrait trouver dans la région si on n'avait pas nos activités humaines. Donc on a une pression très très forte. Je pense aussi que ça fait partie des paysages, et donc ça fait du patrimonial, ça fait partie de notre patrimoine, et c'est quelque chose auquel on tient, évidemment. Quand on parle de nature, on se dit qu'on va faire une balade en forêt, quoi. Voilà, et on a de forts enjeux actuellement, alors parce qu'on a perdu énormément de biodiversité à cause de nos activités, à cause de l'intensification agricole, à cause de l'intensification également forestière, à cause de la pollution, de la restriction des habitats. Et puis on a de nouveaux enjeux maintenant, avec par exemple le changement climatique. Et on sait que certaines de nos espèces forestières importantes, comme le frêne par exemple, vont se sentir de moins en moins bien dans la région. Leur aire de distribution, en fonction avec le climat, doit remonter vers le nord. Donc on devrait en avoir moins, de moins en moins. Et puis le frêne actuellement est attaqué par des champignons. Un champignon qui s'appelle la chalarose du frêne, qui a beaucoup décimé nos forêts. Et on a pas mal de forêts qui sont fermées actuellement. Alors nous, on a étudié justement l'interaction entre le changement climatique et cette maladie, la chalarose du frêne. Le frêne va remonter, donc il sera moins bien dans la région. Mais heureusement, la chalarose du frêne aussi sera moins bien. Et donc on peut se dire que c'est pas si mauvais que ça pour lui, finalement, quand même.
Pascal Desgroux, justement, directrice de recherche au CNRS, quels sont les obstacles aujourd'hui pour cette transition énergétique ?
Ils sont de plusieurs ordres. Ils sont déjà de pouvoir avoir les moyens, par exemple, financiers, eh bien, pour oser la transition. Donc ça veut dire adopter parfois des méthodes qui ne sont pas rentables à court terme, mais qui devraient l'être à plus long terme. Et ça, c'est quelque chose, on doit convaincre les politiques publiques de s'engager dans ce type de décisions qui ne sont pas forcément rentables. Moi, je vais plutôt parler en tant que chercheur, peut-être, et plus dans ma partie qui concerne donc la partie physique et chimie de l'atmosphère. Donc les obstacles, c'est le changement climatique et l'élévation de la température qui s'annonce. Et voilà ce à quoi on est le plus confronté, c'est-à-dire comment cette élévation de température va se répercuter sur notre environnement. Malheureusement, nous, à notre échelle locale, on ne peut pas vraiment lutter contre ça, d'où la nécessité d'avoir des accords internationaux qui sont en cours, hein, avec la COP21 l'année dernière à Paris et cette année la COP22. On est forcément interdépendants. Voilà. Maintenant, en région, on peut également avoir des actions sur lesquelles on pourra peut-être revenir.
Vous parlez de l'élévation de la température de la planète. Comment ça se traduit justement ? Nous, on ne se rend pas forcément compte des changements climatiques, mis à part qu'il pleut beaucoup, dans notre région surtout. Comment ça se traduit ? Par quoi ça se traduit plutôt ?
Alors au niveau mondial, on attend un changement vers une élévation de la température, d'une manière générale, mais surtout des extrêmes bien plus importants. Donc plus de tempêtes, plus de sécheresses, plus d'événements de forte chaleur dans nos régions. Donc des conditions de vie bien plus difficiles. Voilà. Donc on attend ça d'une manière mondiale. Maintenant, en région, on n'est peut-être pas si mal loti au final, parce qu'on aura effectivement une élévation de la température, une élévation du niveau de la mer. Ça, c'est peut-être un problème dans un pays plat.
À Dunkerque, notamment.
Voilà. Donc là, il y a toute une zone qui risque d'être très problématique. Mais les événements extrêmes, comme la grosse chaleur de 2003, par exemple, vous vous souvenez, ils vont être de plus en plus nombreux, mais moins nombreux dans notre région que dans le sud de la France. Voilà.
On remarque quand même notamment qu'il fait plus doux l'hiver qu'avant. On n'a plus de neige.
Alors ça, c'est un des impacts notoires, effectivement. Ça fait maintenant 15 ans que les températures s'élevant, on a des hivers qui sont bien moins rigoureux qu'avant, avec des maladies émergentes, du coup, des petites espèces qui viennent, par exemple les limaces, qui sont de plus en plus nombreuses dans vos jardins, qui mangent vos salades, parce que les hivers ne sont pas si rigoureux. On a tout un tas d'impacts d'hiver.
Sur quoi vous travaillez exactement en termes de développement durable ?
Alors moi, je travaille sur la biodiversité. Et nous, on travaille à comprendre. Déjà, on essaye de comprendre les changements de biodiversité qui ont eu lieu avec nos activités. Et sur le dernier siècle,
on s'est aperçu qu'on avait une banalisation de la biodiversité, c'est-à-dire qu'on a des espèces qui sont de plus en plus homogènes partout dans l'hémisphère nord, et qu'on appelle banales parce qu'on les trouve justement partout. Une homogénéisation des paysages en lien avec l'intensification agricole, les apports d'azote, les pluies d'azote, etc. Et des pertes des espèces, des milieux les plus fragiles. Donc, par exemple, on a perdu à peu près 60% des espèces de tourbières, environ 45% peut-être des espèces de... Vous savez, les bleuets, les coquelicots qu'on avait dans les champs avant, qu'on appelle les plantes messicoles. Enfin, voilà. Donc, on a énormément de pertes de cet ordre-là. On a également observé qu'on avait perdu à peu près, probablement, les deux tiers des espèces de bourdons et abeilles sauvages. Donc là, c'est une catastrophe parce que à peu près 30% de nos activités agricoles sont soutenues par les pollinisateurs de type abeille et bourdon sauvage, bien plus que l'abeille encore domestique.
Justement, Yann Gouriot, voilà, comment la région aussi s'adapte à ces changements de climat, par le solaire notamment ?
Le changement climatique qu'on vient d'évoquer, il nous pousse à deux choses. Il nous pousse à des phénomènes d'adaptation et puis des phénomènes de transformation de nos modes de vie. On l'a évoqué tout à l'heure, les risques augmentent et on sait qu'on aura de plus en plus de tempêtes, notamment. On l'a vu encore récemment, la semaine dernière, sur le littoral boulonnais. Et donc, on va avoir un enjeu très fort, et c'est à l'Adréal qu'on suit ça, en lien avec les directions départementales, un enjeu très fort de défense contre la mer. Vous connaissez les wateringues entre l'eau de Marois et l'arrière-pays de Dunkerque, les wateringues. L'enjeu va être très fort de pouvoir défendre ces arrière-pays qui sont des polders par des investissements très lourds en termes de digues, notamment.
Est-ce qu'on peut rappeler ce que sont les wateringues ?
Les wateringues, c'est ce qu'on appelle des polders en Hollande, c'est-à-dire ce sont des parties du territoire qui sont sous le niveau de la mer, qui sont généralement alimentées en eau avec beaucoup de canaux et dont la défense contre l'irruption marine est faite par des digues qui sont sur le front de mer. On a des problèmes également de retrait du trait côtier, notamment en Picardie, avec des nécessités d'adapter les habitats et l'implantation territoriale sur ce point. Et ça, c'est la partie risque, mais l'ensemble des sujets de développement durable sont très importants et nécessitent des sujets d'adaptation et de transformation des modes de vie qui sont qu'on pourrait développer, mais je suis pas sûr qu'on ait beaucoup de temps pour ça.
Pascal Desgroux, vous vouliez rajouter quelque chose ?
Oui, à ce sujet, au niveau du changement climatique, on a mis en place au niveau de la région un projet du contrat de plan interrégion qui s'appelle Climibio, qui vise en fait à travailler sur l'adaptation au changement climatique en associant 16 laboratoires de la région, donc impliqués dans différents thèmes, la biodiversité, la physique et la chimie de l'atmosphère, la santé et les sciences humaines, et donc s'adapter et trouver des solutions pour pallier le changement climatique, mais aussi essayer de trouver des solutions, donc agir à la source. Et je voudrais rebondir sur la filière bois, justement, puisque le bois, c'est effectivement une énergie renouvelable qui est très intéressante, et comme vous le savez, donc c'est aussi dans le cycle du carbone, c'est très intéressant, puisque les végétaux consomment du CO2 pour pousser, mais forcément la combustion, donc pour obtenir de l'énergie, on va régénérer du CO2. Mais dans la mesure, il y a une sorte d'équilibre qui s'établit. C'est pour ça que la filière bois est de plus généralisée à tout ce qui est végétaux, est très intéressante. Et sur le plan donc régional, on va avoir des actions de recherche qui visent justement à mieux comprendre la combustion du bois, parce que la combustion du bois peut générer la formation de polluants qui peuvent être également nocifs. Voyez. Et donc sur le plan du changement climatique, ce qui est une source de recherche au niveau régional, c'est de mieux comprendre aussi le lien qu'il peut y avoir entre le changement climatique et la formation des polluants dans l'air ambiant, la qualité de l'air qui nous environne au niveau régional.
Et c'est sur ça qu'il faut travailler, effectivement, les transports, et c'est ce dont on parlera, notamment dans le micro-trottoir qu'on va entendre dans quelques minutes, je crois. Nina Hautquette, vous vouliez...
Bah oui, pour rebondir sur ce projet Climibio, on est effectivement de très nombreux laboratoires à travailler dessus, et ce qui est intéressant, c'est qu'on va essayer de travailler très en interaction les uns avec les autres. Et par exemple, moi, pour ma partie, je vais travailler donc toujours sur les abeilles et bourdons sauvages, mais cette fois-ci en ville. On va essayer de comprendre ce qui se passe pour eux en ville, sachant que c'est un milieu très paradoxal, hein, à la fois minéral, coupé par des bâtiments, des routes, mais en même temps, il y a des fleurs. Y a des
qui fleurs, est favorable au...
Il y a moins de pesticides, de moins en moins, en tout cas, dans la gestion des villes. Donc, il peut être favorable aussi par certains côtés. Mais par contre, on va essayer de travailler donc avec nos collègues sur la pollution, voir quel est l'effet de la pollution, l'effet de la ville, l'effet des bulles de chaleur aussi en ville sur ces espèces, et comprendre aussi quel est l'effet, par exemple, sur leur immunité. Et donc là, on peut aussi recouper après avec la santé. Voilà, donc on va travailler avec des géographes, avec des spécialistes de la pollution atmosphérique, etc. etc.
Ouais. Merci, on se retrouve dans quelques instants pour notre micro-trottoir que j'ai réalisé à Lille sur les priorités du public pour améliorer l'environnement en région Hauts-de-France. Mais je vous propose avant une plage musicale avec Grand Corps Malade.
Parlons Franf.
Allez entrer les enfants et arrêtez de vous chamailler. Avancez dans le calme, je sais que vous en êtes capables. Asseyez-vous tranquillement, chacun sa place, ça y est. Écoutez-moi, mais ce matin, n'ouvrez pas vos cartables. On va pas faire de grammaire, de géométrie et de conjugaison. On parlera pas de complément d'objet et encore moins de Pythagore. Ce matin, pas de contrôle et personne n'aura raison. Aujourd'hui, aucune note et personne n'aura tort. Les enfants, écoutez-moi, je crois que je ne vais pas bien. J'ai mal quand je vois le monde et les hommes me font peur. Les enfants, expliquez-moi, moi je ne comprends plus rien. Pourquoi tant d'injustice, de souffrance et de malheur? Hier soir, une fois de trop, j'ai allumé la télévision. Sur les coups de 20h, c'était les informations. Et tout à coup, dans la pièce, s'est produit comme une invasion. De pleurs et de douleurs, c'était pire qu'une agression. Hier soir, l'actualité comptait beaucoup plus de morts que de cheveux sur le crâne de Patrick Poivre d'Arvor. C'est comme ça tous les jours, un peu partout sur Terre. Je crois qu'il fait pas bon vivre au troisième millénaire. Comme aux pires heures de l'histoire, des hommes se font la guerre. Des soldats s'entretuent sans même savoir pourquoi. S'ils s'étaient mieux connus, ils pourraient être frères. Mais leur président se sentait les plus forts, c'est comme ça. Et puis à toutes ces religions qui prônent chacune l'amour et qui fabriquent de la haine, des assassins, des terroristes. Pour telle ou telle croyance, des innocents meurent chaque jour. Tout ça au nom de Dieu, on sait même pas s'il existe. Les enfants, désolé, on vous laisse l'humain en sale état. Il faut que vous le sachiez, alors aujourd'hui j'essaie. Les certitudes des grandes personnes provoquent parfois des dégâts. En fait, l'adulte est un grand enfant qui croit qu'il sait. J'ai mal au ventre, les enfants, quand je vois l'argent mis dans les armes, dans les fusées, les sous-marins et dans les porte-avions. Pendant que des peuples entiers manquent d'eau comme nos yeux manquent de larmes, et voient leurs fils et leurs filles mourir de malnutrition. Apparemment la nature elle-même a du mal à se nourrir. Les hommes ont pollué l'air et même pourri la pluie. Quand tu auras plus d'eau nulle part, faudra garder le sourire. Et même l'odeur des forêts sera tombée dans l'oubli. Les enfants, vous savez ce que c'est, des ressources naturelles? Si vous savez pas, c'est pas grave, de toute façon y en a presque plus. Les mots humain et gaspillage sont des synonymes éternels. L'écologie à l'école serait pas une matière superflue. Les enfants, désolé, on vous laisse la terre en sale état. Et bientôt sur notre planète, on va se sentir à l'étroit. Gardez vos doutes, vous seuls pourrez nous sortir de là. L'enfant est un petit adulte qui sait qu'il croit. Bah alors les enfants, vous êtes bien sages tout à coup. J'ai un peu cassé l'ambiance, mais je voulais pas vous faire peur. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que je compte sur vous. Ne suivez pas notre exemple et promettez-moi un monde meilleur. Allez les enfants, c'est déjà l'heure de la récréation. Allez courir dans la cour, défoulez-vous, profitez-en. Criez même si vous le voulez, vous avez ma permission. Mais surtout couvrez-vous bien, dehors il y a du vent.
C'était le blues de l'instituteur de Grand Corps Malade. Vous écoutez toujours le magazine Parlons Franf sur le thème « L'environnement, une chance pour le développement régional ». Voici donc le moment du micro-trottoir dans lequel j'ai interrogé des personnes lilloises sur leurs priorités pour améliorer l'environnement en région Hauts-de-France.
Parlons Franf.
Parlons Franf.
Parlons
Franf.
Parlons Franf.
Des sujets régionaux.
Un ton libre.
Des reportages de terrain.
Du débat contradictoire mais constructif.
Une parole franche.
C'est Parlons Franf.
Le magazine mensuel de la Franf.
La fédération des radios associatives du nord de la France.
Parlons Franf. Le magazine Made in Franf.
Donc, selon toi, quels sont les principaux problèmes d'environnement dans la région Hauts-de-France ?
Je dirais la pollution, parce qu'il y a pas mal de voitures, plus l'autoroute, les bouchons, et ça fait pas mal de gaz à effet de serre.
Le centre-ville à 17-18 heures à vélo, le manque de silence. Voilà, donc grosse agglomération égale plein de gens, etc. Ça, c'est première chose, mais... Après, les modes de déplacement doux. Favoriser l'accès aux transports en commun, que ce soit le train, les bus, Montgis, etc. Avec des plus grandes amplitudes horaires. Et il faut que ça soit vraiment très, très accessible pour tout le monde, donc beaucoup moins cher. Ça veut dire qu'on utilise moins la voiture et on est moins énervé, on arrive moins en retard. Après, peut-être un peu plus... de tout magasin de proximité, producteur de proximité. Bon, ça serait peut-être un peu pour la qualité de ce qu'on mange. Après, d'endroits où les gens pourraient se parler. Ce n'est pas toujours très compliqué à faire et à mettre en œuvre. Parce que finalement, on mène des vies qui créent plein de problèmes parce que les gens sont dans les embouteillages. Au boulot, ça ne se passe pas toujours très bien. Et s'il y avait des endroits où on pouvait poser, tout simplement, se rencontrer, parler, échanger, ce serait pas mal non plus.
Alors pour toi, quelles sont les priorités pour améliorer l'environnement dans la région Hauts-de-France ?
Je pense que ça serait au niveau des circuits de consommation et de transport. Donc, par exemple, rendre les services publics gratuits ou alors moins chers pour privilégier les transports de masse et propres. Et sinon, ça serait développer tout ce qui est points de consommation et circuits courts comme les AMAP ou par exemple la ruche qui dit oui, qui distribue des paniers de producteurs locaux.
On est la rue fait d'herbe, développer vraiment le vélo, quoi. J'ai un fils qui vit à Copenhague et les voies pour les vélos sont vraiment bien matérialisées. Et les gens respectent les feux et c'est très bien. Alors qu'ici, quand ils ont prévu cette route, ils n'ont pas envisagé les vélos, quoi. Il y a des traces un peu blanches, mais c'est tout, ça ne suffit pas. Donc il faudrait vraiment mettre le paquet pour la circulation des vélos.
Alors pour vous, quelles seront les priorités pour améliorer l'environnement dans la région Hauts-de-France ?
Moi je pense que ce serait bien de créer des écoquartiers. Où on pourrait mettre on pourrait limiter en fait les déplacements en voiture, on pourrait mettre un système de tri des déchets en place, un peu plus poussé, et on pourrait même récupérer l'eau de pluie, enfin mettre des choses comme ça en place, ce serait intéressant. Je pense que ça réunirait aussi les citoyens et ça mettrait une bonne ambiance. On pourrait aussi créer plus d'espaces verts pour se retrouver et profiter un peu de la nature. Ouais.
Parlons Franf.
La radio autrement.
Des sujets régionaux. Un ton libre.
Des reportages de terrain.
Du débat contradictoire mais constructif.
Une parole franche.
Parlons Franf.
Voilà donc quelques propos recueillis et certaines propositions. Des réactions ?
Je trouve très intéressantes, les différentes propositions hein, qui font appel à du bon sens finalement. Hein. C'est-à-dire des transports publics gratuits si possible, avoir des vraies pistes cyclables, favoriser les circuits courts. Ça semble vraiment des pistes sur lesquelles il faut effectivement travailler, qui se mettent en route, je pense.
Et justement, est-ce que les villes arrivent à s'adapter justement à ces propositions ? Par exemple, Lille avec le Vélil.
Je vais faire le point avec les chercheurs. On a tenu, nous avons un centre d'études et de ressources en développement durable au sein du ministère qui s'appelle le CEREMA. Et le CEREMA a tenu en l'année dernière, en novembre, une rencontre interrégionale qui s'appelle Voirie pour tous, et dans laquelle on a demandé aux chercheurs qui étaient invités à réfléchir sur comment adapter la ville au retour du vélo. Et c'est un sujet qui nous tient à cœur au ministère de l'écologie, justement parce qu'il s'agit d'impliquer les décideurs publics locaux, notamment dans leur plan d'urbanisme, leur plan de déplacement, à savoir comment réintroduire les modes doux, transport en commun bien sûr, mais aussi le vélo. Et c'est un des axes de travail sur lequel on insiste beaucoup, notamment à travers le travail de l'autorité environnementale, puisque c'est nous qui sommes instructeurs de l'autorité environnementale. Et donc, à chaque fois qu'il y a des projets, ou des plans ou des programmes déposés par les collectivités, on insiste toujours sur améliorer les modes doux de déplacement et le prévoir dès l'amont des projets.
Est-ce que vous sentez qu'il y a déjà eu une amélioration ou que les gens prennent plus facilement le vélo ?
Je serais un petit peu partagé pour vous répondre. La situation est hétérogène. On est dans le Nord-Pas-de-Calais, en tout cas, on était quand même très habitués à la voiture. C'est le monde de la voiture. Il suffit d'aller du côté des Nimbomont sur la grande zone commerciale. On voit bien qu'on a consommé des espaces agricoles au kilomètre pour faire les zones où la voiture est reine. Donc il y a encore beaucoup de travail. Beaucoup de travail, mais ça vient, et notamment un certain nombre de collectivités prennent le pli de ce virage du vélo et des modes doux et commencent à mettre en place des projets intéressants.
On entend aussi dans ces réactions des personnes interrogées à Lille qu'il y a pas mal de gens qui veulent avoir un lieu où ils peuvent se retrouver et discuter.
Oui, alors j'ai pas d'avis en tant que chercheur là-dessus, c'est pas mon thème de travail, mais c'est sûr que la convivialité, c'est un des éléments importants, je pense, de l'avenir qu'on doit se construire, parce que le monde qu'on doit construire, on doit pas le voir maintenant comme, essayer de rafistoler ce qui ne va pas, essayer d'arranger ce qu'on a mal fait. Je pense qu'on a des grandes opportunités maintenant de construire quelque chose de beau. C'est vrai, un monde sans carbone, sans voiture, ou très peu, en tout cas, beaucoup plus de vélos, beaucoup plus d'échanges locaux, ne peut que nous mener à plus de convivialité, plus de santé, et donc forcément, je pense que c'est un joli monde qu'ils sont en train d'inventer là aussi.
Et ça favorise un peu l'éco-quartier.
Oui, mais si on pense local, je pense qu'il faut le voir sous tous ces aspects. Et l'éco-quartier, c'est un quartier qui doit avoir le partage dans son quartier avec la possibilité d'avoir une ou deux ou trois voitures qui sont partagées, par exemple. Des lieux de convivialité aussi qui sont partagés. Des commerces qui sont plus par quartier. C'est vrai qu'on a beaucoup fait de quartiers qui sont des dortoirs finalement, et puis on n'a pas une boulangerie à l'intérieur, on prend sa voiture le matin pour aller chercher le petit pain quoi. Donc là, je pense que l'éco-quartier fait partie aussi de ça.
Yann Gourieux, vous n'étiez pas forcément d'accord avec ça ?
Si, bien sûr, sur la logique générale. L'éco-quartier, c'est un label, si vous voulez, qui a été délivré par le ministère du Logement. Et donc, je crois que c'est juste le terme qui me faisait un petit peu réagir. Simplement, la logique générale, c'est bien évidemment de réapproprier que les hommes et les femmes se réapproprient leur quartier et que finalement laisser la place de l'humain de manière beaucoup plus importante. Et c'est ça, c'est ça qui doit nous guider dans tous nos choix d'organisation, notamment pour permettre que la ville soit finalement plus vivable et réintroduire de la nature en ville. Je regarde nos amies chercheuses, parce que bien évidemment c'est un enjeu primordial, et on a pour ça des programmes de recherche très multiples, des appels à projets lancés par le ministère qui sont également multiples et qui devraient finalement faire monter en qualité générale l'ensemble des projets lancés et donc finalement l'ensemble de notre cadre de vie.
Est-ce que vous avez un exemple d'écoquartier justement dans la région ou de plusieurs écoquartiers qui fonctionnent vraiment bien
Moi, je peux peut-être parler de mon expérience à Ronchin. Il y a une petite association qui s'appelle le Vivarium de la Lézarde et qui essaie en fait de favoriser le lien en fait, mais à l'échelle du quartier, surtout le dialogue entre les habitants, en proposant des petites activités toutes simples, comme chanter ou inviter samedi dernier des personnes, des Roms, qui habitent dans un endroit délaissé derrière l'autoroute et qui sont à cheval entre Ronchin et les Aisnes, et puis pour leur donner la possibilité de s'exprimer, parce qu'ils se sont aussi regroupés en tant qu'association. Et donc ces associations font du lien, permettent aux gens de se connaître, parce que effectivement, on est plus en cité dortoir. Donc voilà, c'est un petit exemple. C'est réparer des vélos ensemble, c'est voir un film ensemble, se parler, quoi.
Favoriser le lien social.
Voilà, exactement, c'est très important.
On parlait tout à l'heure de réintroduire la nature en ville. Comment concrètement ça peut se faire ?
Alors, pour un cas que je connais bien, pour les abeilles et bourdons sauvages, il existe certaines de ces espèces qui aiment beaucoup s'installer dans ce qu'on appelle des hôtels à insectes. Alors, vous pouvez installer un hôtel à insectes, c'est en fait un assemblage de petits bâtons creux ou avec une sorte de moelle à l'intérieur. Et les abeilles, quand vous l'orientez bien au sud, sud-est, elles s'installent au printemps et c'est incroyable de voir cette vie, ces insectes qui rentrent et qui commencent à pondre, à installer du pollen, ensuite ils colmatent, etc. Et c'est très intéressant pour tout le monde d'ailleurs, mais pour les enfants en particulier. Donc on peut faire ce genre de choses. Il faut penser à mettre des plantes à fleurs pour les abeilles et bourdons sauvages également, mais des plantes à fleurs si possible plutôt locales, quoi, quand même, c'est plus intéressant. On peut en particulier essayer d'éviter d'utiliser des pesticides, parce que c'est quand même un gros mode de destruction de la faune. Et tout ça, ça se répercute sur le reste de la faune, puisque du coup, les oiseaux ont une meilleure alimentation. Donc il y a plein de choses à faire. Et en particulier, donc, penser à des espèces locales de plantes, de fleurs, aussi penser peut-être à la diversité régionale pour les pommiers que vous allez planter, ou des choses comme ça.
Du coup, c'est faire aussi participer les intercommunalités entre elles aussi, par ce projet, par exemple, des abeilles.
Oui, alors nous, on va travailler sur l'île et sa périphérie. Hein, donc, on va travailler avec Vinavasque, par exemple, la Melle, sur les espaces naturels métropolitains. On ne va donc pas s'arrêter à la ville de Lille, évidemment. Du coup, ça favorise de l'intercommunalité dans le sens où, par exemple, du coup, on a déjà démarré des échanges sur les modes de gestion des espaces verts. Et les techniques vont ils vont partager leurs techniques aussi plus facilement au travers de notre travail.
Rapidement, concernant la pollution, est-ce qu'il y a d'autres solutions que de prendre le vélo, de favoriser ces modes de déplacement plus verts ?
Bien sûr qu'il y a d'autres solutions. La difficulté, c'est toujours de les mettre en œuvre. On a depuis 2 ans en région Nord-Pas-de-Calais un plan de prévention de l'atmosphère qui a décliné un certain nombre de mesures pour retrouver la qualité de l'air et lutter contre la pollution, notamment la pollution aux particules et au dioxyde de carbone. Et quand on dépasse les seuils identifiés, eh bien, on a des mesures d'urgence qu'on peut mettre en place, qu'on est en train de travailler sous l'autorité du préfet, et qui devraient pouvoir introduire, notamment dans la métropole lilloise, la circulation alternée, voire la rétention d'un certain nombre de véhicules polluants sur des aires identifiées pour les empêcher de circuler quand on dépasse les pics de pollution aux particules.
Comme à Paris, ça s'est déjà fait, hein, d'ailleurs.
Tout à fait.
Il est temps de conclure. Je voudrais donc remercier nos invités, M. Yann Gouriot, directeur adjoint de la DREAL, Mme Pascale Desgroux, directrice de recherche au CNRS, Madame Nina Hotequette, maître de conférence, Université Lille Sciences et Technologies. Enfin, merci à nos journalistes, Joris Nessens de Radio Club, Wallers Arenberg, Inès No de RPL 99 FM, sans oublier René Laverne, coordinateur et réalisateur de cette émission.
Un grand merci Juliette Vincent de Radio Campus et à bientôt pour les prochains sujets de Parlons France, le magazine des rédactions des radios de la Fédération des radios associatives du Nord de la France.
Parlons France,
le magazine mensuel de la France,
la Fédération des radios associatives du Nord de la France.
Des sujets régionaux,
un ton libre,
des reportages de terrain,
du débat contradictoire mais constructif,
une parole franche,
parlons franf.
Le magazine Made in France.
Des tonnes de pétrole dans la mer. Dans l'atmosphère et du phosphore dans nos rivières, de la dioxine dans nos déserts, des piscines en plein désert, 50 degrés en plein hiver, et tant pis pour l'ours polaire. Un ours, à quoi ça sert?
Niquons la planète.
D'être.
Le magazine mensuel de la France,
la Fédération des radios associatives du Nord de la France.
Parlons France, le magazine Made in France.
Parlons France.